Le Club Notarial Immobilier, mardi 28 mai 2024.
Bonjour et bienvenue dans le débrief du Club Notarial de l'Immobilier. Aujourd'hui, mon invité, je reçois Jean-Luc Porcedo. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous êtes directeur général de Nexity Transformation des Territoires, le pôle aménagement du groupe Nexity. Bon, pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question qui fâche. Avant de passer sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, savoir un petit peu votre réaction suite aux chiffres qui ont été divulgués de ce premier trimestre 2024 par les notaires de Paris, les notaires du Grand Paris, pardon.
Pour tout vous dire, écoutez, Maître Frémont, tout à l'heure, je me suis posé la question, est-ce que je me lève parce que c'est trop catastrophique et que ça va être compliqué de tenir l'émission. Ça, c'est un peu en exagérant. En fait, ce qu'elle annonce, c'est chronique d'une catastrophe, mais que tout le monde connaît, qu'on n'y tombe pas dessus du jour au lendemain. Ça fait des mois et des mois et des mois que cette catastrophe est annoncée, se développe, s'installe. Donc, c'est pas une surprise. Ce qui était un peu difficile, on va dire, à écouter Maître Frémont, c'est que tout ce qu'elle racontait, sans être dans le détail près des chiffres, dans une société comme Nexity, on le sait, on en parle tous les jours, on le dit, Véronique Bédague l'a dit multitude de fois, Véronique Bédague, notre présidente directrice générale, l'a dit une multitude de fois, sur les ondes, à la télé, sur la presse écrite, bon. Donc on n'est pas surpris dans la continuité de la crise. Simplement, c'est d'écouter comme ça, sur un plateau, on va dire, le déroulé de cette narration. J'avoue que c'était, un peu compliqué à écouter. Parce que même si c'est quelque chose qu'on connaît, ça fait toujours mal de l'entendre raconter de cette manière-là.
Oui, et puis en plus avec les chiffres, vraiment les détails à chaque fois bien, bien pointilleux. Bon, on va passer un petit peu à un sujet un petit peu plus positif, plus gai. Je vais compléter votre introduction. Je rappelle, vous êtes directeur général de Nexity Transformation des Territoires, mais vous pilotez, comme vous le dites si bien, des projets dits complexes, notamment un certain projet, celui du village des athlètes du village olympique pour les Jeux de Paris. Comment ça s'est passé un petit peu ce projet? Dans quel engouement, ferveur vous étiez en tant que Français de construire le village des athlètes?
Alors, je vais vous donner une anecdote très personnelle. Moi, j'ai vécu dans le village olympique de Grenoble. Donc, j'étais extrêmement enthousiaste d'engager Nexity sur le village des athlètes à Saint-Ouen pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Donc, c'est un petit clin d'œil personnel qui est plutôt rigolo. J'ai l'habitude de dire à mes équipes, un projet olympique, c'est qu'une fois dans la vie. Bon, moi, j'en ai eu deux. Donc,
vous faites partie des grands, grands chanceux.
C'est ça. Après, je crois que c'était une immense fierté. Je vais reprendre dans l'ordre. C'était une interrogation, une inquiétude de candidater. Mais en même temps, on se disait à l'époque, Alain Dinin, Véronique Bédague, Jean-Philippe Ruggieri, on se disait à l'époque, on ne peut pas ne pas y aller. Bon. Mais voilà, il y avait quand même ce doute, cette interrogation, parce que je crois qu'on ne fait pas ces projets pour gagner de l'argent. Mais en même temps, une entreprise n'avait pas prévu d'en perdre. Donc, cette espèce de contradiction. Et puis, en même temps, le numéro un français de l'immobilier ne pouvait pas ne pas être dans cette aventure. Donc, on a candidaté. Une immense fierté quand on a gagné. Et puis après, on va dire 4 ans et demi de coup de chaud. 4 ans et demi de stress, parfois d'immense satisfaction quand on voyait la vitesse à laquelle ça poussait. Mais en même temps, de 4 ans et demi... en étant tous les jours impressionné par la manière dont ça avançait. Hein. Vous voyez pousser le village olympique. C'était le plus grand chantier monocyte d'Europe. C'était plus de 50 grues en même temps, 57 je crois exactement, qui tournaient, virevoltaient.
Un balai incessant des grues.
C'était une multitude de compagnons qui intervenaient de partout. Bref, c'était... pour celles et ceux qui sont un peu attentifs et passionnés des projets urbains, un truc exceptionnel. Et cette satisfaction, cette pression, mais en même temps cet engouement, il a duré de la candidature jusqu'à la livraison le 29 février dernier, à Paris 2024, lors de l'inauguration avec le président de la République. Et là, c'était ouf, on y est arrivé, mais en même temps, une immense fierté de livrer avec d'autres, chacun sa partie, on va dire un projet tout fini. Parfaitement fini.
Est-ce que vous sentiez vraiment, vous, avec justement cette petite anecdote de Grenoble, mais aussi vos équipes, se dire, avoir ce côté un petit peu chauvin, de dire voilà, par notre biais, on apporte aussi notre pierre à l'édifice, notre contribution aux Jeux de Paris.
Alors, oui, je vais vous dire simplement oui, bien sûr, mais je pense que ça va même au-delà des Jeux. On va dire, par notre engagement, on apporte, et quelque part, c'est aussi, voire plus important, on apporte notre pierre, on apporte notre participation à la transformation des territoires et à la capacité d'accueillir demain des hommes et des femmes dans un quartier de très haute qualité, dans un cadre de vie. Et la fierté, elle était bien sûr les Jeux, parce que c'est sous des projecteurs... L'événement mondial, on va accueillir toutes ces délégations. Bref, on est le projecteur du monde entier. Puis après, on est à la fois modeste et en même temps très fier. Demain, c'est la transformation du territoire. Pour nous, c'est Saint-Ouen. Pour d'autres, c'est Saint-Denis ou l'île Saint-Denis ou Dunis-le-Bourget. Parce qu'on a un attachement particulier chez Nexity. Aux territoires en difficulté, je dis souvent Nexity est le premier opérateur privé en zone en rue, on a un attachement particulier à ce territoire de Saint-Ouen, on y a installé notre siège, on y est présent depuis plus de 20 ans, on a travaillé avec toutes les équipes municipales parce que nos projets étaient de qualité, et puis on a un attachement particulier sur, on va dire, le logement abordable, c'est-à-dire les hommes et les femmes à qui on veut proposer la capacité à accéder du logement dans de bonnes conditions. Donc bien sûr, il y a la fierté des JO, bon, c'est normal,
mais tout ce que ça apporte.
Il y a aussi la fierté de participer à l'amélioration de la vie de ces territoires, à l'amélioration des équipements dans ce territoire, à l'amélioration de la qualité urbaine de ces territoires.
Et est-ce que, justement, pour vous, ce type de projet, de quartier, ça peut être une solution de construction et peut-être de répondre à certaines problématiques de cette crise du logement qui touche la France depuis quelques mois, de venir... grâce à votre expertise, dire voilà, on est en capacité aussi également de faire ça et de répondre peut-être à certaines attentes et comme vous le disiez, de proposer des logements durables, intéressants et améliorer aussi la qualité de vie de ces personnes en leur proposant des logements à un loyer normal et pas excessif.
Le cœur de cible de Nexity, c'est le logement abordable. Ça fait depuis sa création, la cible, non pas prioritaire, mais quasi... complète de Nexity dans sa production de logement, c'est le logement abordable. C'est des populations à petits revenus. Et c'est pas pour rien qu'on est les premiers en zone en rue, dans des territoires, on va dire, où d'autres ne veulent pas aller, tout simplement. Il faut pas se tromper non plus. Ce que l'on fait sur le village olympique, on pourra pas le faire dans l'ensemble du territoire, sans rentrer trop dans les chiffres, pour une raison toute simple, hein, c'est que le coût de construction du village olympique est en dehors de toute règle.
Oui, bien sûr.
De bilan de Nexity, d'opération, le bilan d'opération chez Nexity. Par contre, on sait qu'on est capable de faire des choses de qualité tout en étant dans une cible de logement abordable. Après, ça dépend où on va le faire et avec qui on décide de le faire. Vous savez, construire des logements abordables, c'est assez simple. Moi, je dis que nos métiers sont compliqués en termes d'appréhension territoriale, mais assez simples dans la mise en œuvre. Un logement, le côté abordable du logement, mais une opération en général, ça repose sur trois pieds. Le prix du foncier, le coût de construction, le prix de sortie. C'est quand même les trois critères qui définissent, on va dire, la rentabilité ou l'accessibilité en termes de prix pour les futurs acquéreurs, que ce soit des bailleurs ou que ce soit des propriétaires. Le prix du foncier, il continue toujours en France à augmenter. Puis, on a beau dire et raconter je ne sais pas quoi, aujourd'hui, le prix du foncier continue à être inflationniste, même quand ce sont des fonciers publics. Même quand ce sont des aménageurs publics, parce que comme ça va mal, ils veulent retrouver leur charge foncière, on va dire, antérieure. Donc en fait, le foncier aujourd'hui, et l'inflation du foncier n'est absolument pas maîtrisée. Le coût de construction a eu une croissance catastrophique, et on l'a beaucoup vécu au moment dans la construction du village olympique, avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, on a eu à peu près la même courbe que les taux d'intérêt. En l'espace de deux mois, c'est monté de 30%.
Ça a explosé.
Il a arrêté d'augmenter, le coût de construction, il renvoie... à l'indice du BT01, il a un tout petit peu baissé, mais il n'est pas revenu au prix antérieur d'il y a 3 ans. Donc en fait, le coût de construction reste élevé. Et après, on sait que l'ambition environnementale de nos projets impose des coûts de construction un peu plus onéreux. Et donc la conséquence de tout ça, c'est le prix de sortie. Le prix de sortie, avant on avait des leviers, on va dire, de régulation, à la fois parce que le taux d'intérêt était à zéro, et en même temps, parce qu'il y avait des dispositifs pour accompagner les investisseurs, des dispositifs fiscaux pour accompagner les investisseurs. En fait, on n'a plus rien de tout ça. Donc en fait, le foncier est redevenu cher ou est resté très cher. peut-être qu'un jour, on décidera, enfin pas nous, mais la puissance publique, de revenir à une fiscalité qui permet l'écoulement des fonciers ou qui inverse, on va dire, la rentabilité si on garde les fonciers. Aujourd'hui, on a intérêt, quand on est propriétaire, à garder son foncier. Il faudrait qu'il y ait une fiscalité incitative pour les libérer. Mmh. Bon. Le coût de construction, il a certes arrêté d'augmenter, mais il n'a pas forcément baissé. Et je ne sais pas ce qui se passera dans les prochains mois. Et, on va dire, les dispositifs publics, pour faire simple, ont tous été arrêtés et que l'argent, même si les taux d'intérêt baissent un petit peu, on ne reviendra jamais. Alors, si je reste sur ça, je crois qu'il ne faut pas attendre, et c'est tout l'enjeu de nos métiers, on est dans une vraie transformation, les dispositifs fiscaux, type Pinel, pour faire simple, ne reviendront pas. Et donc, il faut... parce que l'état des finances publiques ne le permet pas, tout simplement, enfin, si j'en crois ce que je lis. Néanmoins, on peut retrouver des dispositifs fiscaux d'accompagnement pour accéder au logement. Je pense entre autres au PTZ. Aujourd'hui, la fin du PTZ et son recentrage sur des territoires denses exclut mécaniquement des populations à petits revenus qui n'habitent pas en zone dense, parce que les petits revenus n'habitent pas en zone dense, parce que les prix sont trop chers. Donc en fait, on a exclu mécaniquement, je ne sais pas si c'est méthodiquement, si c'est voulu, mais à la fois les jeunes, qui ne peuvent plus rentrer dans le parcours résidentiel, et les petits revenus. Après, c'est un choix. Moi, je dis, je répète, ça a une conséquence sociale et politique super inquiétante, mais nous ne sommes pas responsables politiques, nous sommes juste opérateurs. Donc, trouver demain les modalités pour aller chercher ou attendre des dispositifs fiscaux, il ne faut pas y compter. Imaginez que les taux d'intérêt vont revenir à la situation antérieure il y a 2 ans, il ne faut pas non plus y coter. Donc il faut réinventer, on va dire, notre modèle foncier, coût de construction, pour garantir des prix abordables. Ce n'est pas complètement simple.
Eh bien, écoutez, je vous remercie Jean-Luc Porcedo pour cette très belle conclusion. Je rappelle que vous êtes directeur général de Nexity Transformation des Territoires, le pôle aménagement du groupe Nexity. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Immo.
Merci à vous.
Le club notarial immobilier, mardi 28 mai 2024.